Bonjour chers amis auditeurs, alors nous nous retrouvons pour la troisième émission et avec grand plaisir dans l'église Saint-Antoine d'Arcambale, mais nous verrons que c'est peut-être pas celui dont on croit. Ah, ah. Donc nous sommes en compagnie de Christian, bonjour Christian.
Bonjour.
Nous retrouvons également Thérèse, bonjour Thérèse.
Bonjour.
Nous retrouvons Gilles avec grand plaisir.
Oui, bonjour.
Notre éditeur, bien sûr, et ma chère Marie-Madeleine, qui me suit sur toutes les émissions. Bonjour Marie-Madeleine.
Bonjour Martine, bonjour à tous.
Voilà, donc chers amis auditeurs, nous étions dans l'église d'Arcambale la semaine dernière. Nous nous y retrouvons avec grand plaisir. Nous étions dans la chapelle sud avec ce tableau magnifique où nous voyons... Louise de Lavallière, où nous avions eu une très belle précision par Marie-Madeleine et Christian sur ce magnifique tableau qui avait été restauré. Et nous sommes passés la chapelle qui est juste en face, donc côté nord, voilà. Donc nous entrons, elle est très très bien éclairée. Et en rentrant, moi je vois tout de suite... Voilà, un magnifique vitrail. Alors, c'est l'école, bien sûr, de Bayonne et Bordeaux, Christian.
Oui, oui, toujours.
Voilà, toujours, hein, comme celui qui fait face. Et tout de suite, Marie-Madeleine, vous pourriez nous faire la description de ce vitrail.
Eh bien, en regardant comme ça, sans l'avoir connu, c'est, je pense, Notre-Dame de Lourdes, avec Bernadette qui prie au pied de la Vierge. Bernadette habillée d'un voile rouge et d'une robe marron avec un tablier bleu turquoise. Voilà, elle regarde la Vierge et elle l'écoute. Et la Vierge est toujours en blanc et bleu, avec une très belle ceinture bleue. Et elle rayonne, son auréole rayonne d'énormes rayons dorés derrière elle. Voilà, et elle repose sur un tapis de roses.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, Marie-Madeleine, nous voyons des fleurs.
Et on est bien dans la grotte, puisque de part et d'autre, on voit le rocher.
Et alors, là, c'est un don de la famille. Alors, je vais vers Christian. C'est un don de la famille...
Barietti, voilà. J'ai remarqué.
Oui.
Mais c'est une famille, je ne connais pas. Est-ce que Gilles ou Thérèse...
Non, pas plus. De précision. Non. Donc, c'est un don de la famille Barietti. Un superbe vitrail, tout aussi superbe que celui qui lui fait face, avec de très jolies couleurs également. Et lorsque nous sommes devant ce vitrail, tout de suite à gauche, nous voyons un tableau, superbe tableau également, qui représente la scène. Christian.
Alors, c'est un tableau qui est tout à fait différent des deux autres qu'on a décrits lors d'une précédente émission. J'ai compté, il y a bien les 12 apôtres.
Ah, voilà. Vous me
donc,
rassurez.
Judas fait partie de l'ensemble des apôtres qui se trouvent là lors du dernier repas. On le voit d'ailleurs mettre la main au plat, donc référence bien sûr au texte là. Alors la facture de ce tableau, elle est presque naïve. Autant on avait affaire à un peintre professionnel les deux autres tableaux du XVIIe siècle.
Oui.
Alors celui-ci n'est pas daté, je ne suis pas sûr qu'il soit répertorié ou inscrit aux Beaux-Arts, je ne sais pas, je ne pense pas. Donc la description du tableau, je pense que Marie-Madeleine le fait bien mieux que moi.
Donc Marie-Madeleine, vous avez la parole. Alors voilà, donc
Merci,
peinture à peu près naïve d'après ce que disait
oui,
Christian.
Oui, beaucoup plus naïve, oui, c'est-à-dire que les personnages ont des figures assez juvéniles et puis assez naïves, c'est très simple comme peinture, mais c'est très agréable parce qu'il y a de belles couleurs.
Mm-hmm.
Et puis bon, il y a toujours la symbolique. Hein. En effet, Judas qui est au premier plan pour nous et qui fait face à Jésus, met la main dans le plat. Jésus le dit dans l'Évangile. Il dit : celui qui mettra la main dans le plat en même temps que moi, celui-là me trahira. Et alors tous à ce moment-là se regardent en disant « Mais ce n'est pas moi, Seigneur, ce n'est pas moi, hein, voilà. » Or, c'est Judas qui va mettre la main dans le plat en même temps que Jésus, et ensuite, donc, va le trahir. Et le symbole de sa trahison est dans son dos, puisque de la main gauche, ce qui n'est pas rien, ce qui est aussi symbolique, de la main gauche, il tient la bourse que lui ont donnée les Juifs, le Sanhédrin, pour trahir Jésus.
Ah oui, détail très important, effectivement.
Voilà. Et donc, il y a 12 apôtres autour, dont Judas, et de part et d'autre de Jésus, on peut remarquer à droite Jean, Saint Jean, et à gauche Pierre, avec sa barbe. Voilà, et Jean est glabre. Et ce qu'il y a d'encore plus naïf, je trouve, c'est que il y a un petit lustre au-dessus de la tête de Jésus, qui est un peu incongru, mais qui marque la bonne patte, finalement, de cette peinture.
Il y a des assiettes creuses, à part ça
il y a juste un grand calice, qu'on pourrait dire un grand calice, et un plat dans lequel il y a l'agneau qui a été servi pour la scène.
D'accord. Et ce tableau a-t-il été restauré, Christian?
Non. Autant l'autre est en très bon état.
Oui, celui-ci, la chapelle en face, oui. Voilà.
Celui-ci n'est pas en mauvais état. Je pense que simplement un nettoyage du vernis lui redonnerait un peu de chien dans les couleurs.
D'accord.
Et simplement le nettoyage. Alors le nettoyage le plus simple à faire, si vous avez des vieux tableaux chez vous, c'est ou la pomme de terre ou simplement le liquide vaisselle ou un peu de savon de Marseille. Diluer un petit peu dans de l'eau, et ça nettoie tout ce qui est poussiéreux qui se colle sur le vernis, ça s'enlève très facilement, et on retrouve assez vite...
Et ça ne dénature pas la peinture?
Non, parce que les vernis sont des vernis à l'alcool, la peinture, c'est une peinture à l'huile, donc ce qui risque de se passer si on utilise un dévernissant, c'est que ça soit le même diluant que la peinture.
D'accord.
Donc, les vernis sont des vernis à l'alcool. Si vous prenez l'alcool, vous allez retirer le vernis. Alors là, c'est une tâche très difficile. Mais le simple nettoyage, soit avec une pomme de terre, mais le mieux, c'est de l'eau savonneuse. Voilà.
D'accord.
Donc, ce tableau-là, sûrement, gagnerait à avoir un petit nettoyage simplement à l'eau savonneuse. Parce que la toile n'est pas déchirée, on ne voit pas de coups de couteau, pas de déchirure. Le cadre également ressemble à l'autre, j'ai même l'impression que c'est le même que celui de Louise
Lavallière. Oui, effectivement.
Donc il y a une homogénéité entre ces deux tableaux, ces deux chapelles.
Voilà. Alors, merci pour les précisions de ce tableau. Juste en face, il y a donc cet autel. Marie-Madeleine et Christian, qui est en marbre.
Oui, cet autel en marbre blanc, 19e, il est très classique. Le devant d'autel représente des arcades séparées par des colonnes à chapiteaux dorés. Et puis, au-dessus, donc, le tabernacle, qui est très, très pur dans la ligne, avec une porte en arc de cercle, comme les portes romanes. Voilà. Et puis, de part et d'autre, une sorte d'escalier où l'on peut poser les chandeliers.
Et donc,
les candélabres, voilà.
Au-dessus,
et
une très belle vierge.
Très belle vierge en bois doré. Qui tient dans sa main droite un fuseau. Un fuseau, elle file la laine, elle tient dans sa main droite un fuseau, et sur son bras gauche, évidemment, le petit Jésus tenant le monde.
Voilà,
elle est très belle.
Date par rapport à ce... À cet hôtel
L'hôtel 19e.
Oui, vraisemblablement.
Ah, 19e, oui, tout à fait. Au niveau de la croisée d'ogives, nous apercevons au-dessus quelque chose.
La clé de voûte,
oui,
qui est toujours
la clé de voûte, oui.
Croisée. Donc, c'est toujours, je pense, les armoiries de la famille.
Oui, que nous retrouvons, n'est-ce pas, Christian, au-dessus.
D'accord.
Cette armoirie que nous avions déjà vue dans la chapelle, dans la chapelle des châtelains, la chapelle châtelain.
Donc,
oui, Thérèse.
C'est la famille, donc.
Moi, je pense que c'est la famille des Bousquet. Ce sont les châtelains qui étaient là au XVe siècle et qui ont entrepris la construction de l'église.
D'accord. Très bien. Quelque chose à rajouter sur cette chapelle, Christian ou Marie-Madeleine? Pas de précision. Alors, oui, Gilles, tout à fait.
Juste simplement un détail.
Oui.
Quand j'ai retrouvé, d'ailleurs, plus tardivement, et c'est un paroissien qui me l'avait précisé, les deux vitraux qui se trouvent dans les, deux dernières chapelles dont nous venons de parler sont fleurdelysées. Et on retrouve cette fleur de lys au bas d'un pilier, à notre gauche, c'est-à-dire en allant vers les fonts baptismaux.
Qui se trouve au fond
voilà,
de l'église, oui.
Et c'est le seul endroit, d'ailleurs, où une fleur de lys se trouve gravée dans, on va dire, l'édifice.
D'accord.
Voilà, c'est intéressant de le remarquer. Effectivement, ça fait certainement référence, bien sûr, au châtelain qui se trouve de l'autre côté de ce
alors,
bâtiment.
Alors, justement, Gilles, avec vous et donc les personnes invitées là sur ce, dans cette église, nous allons vers le fond de l'église, car il y a sur la droite quelque chose de particulier, Gilles, dont vous allez nous parler. Nous apercevons une grille, oui. Et derrière, comme un lavabo, mais ce n'est pas un lavabo.
Non.
Bien sûr. Alors, Gilles, vous pouvez nous donner cette précision, cette description.
Alors, il n'y a pas l'eau courante, mais effectivement, c'est l'endroit où se, où se trouvent les fonts baptismaux, qui autrefois étaient matérialisés par une vasque en cuivre, qui a disparu, certainement volée ou prêtée et oubliée dans le lieu où elle est partie. Et c'est grâce à la poterie d'Arnis, les céramiques du Quercy, qui ont un atelier, qui avaient un atelier puisqu'il n'existe plus aujourd'hui au-delà de Cahors, qui ont fabriqué ce magnifique objet. Et on remercie Pierre Nouirite, un des membres actifs de la poterie d'Arnis, d'avoir mis à disposition ces fonts baptismaux avec la représentation, bien sûr, du baptême que l'on voit en façade.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait, tout à fait.
Donc, c'est de la faïence.
Marie-Madeleine vient d'ouvrir, justement, cette belle grille. Nous allons nous en approcher parce que il y a donc de la pierre qui entoure cette cuve, on va dire,
oui.
Marie-Madeleine.
Eh bien, la cuve, donc, Gilles vient de dire qu'elle était en cuivre auparavant. Elle s'incluait donc dans cette pierre. Et à la place, maintenant, il y a cette céramique d'Arnis.
Voilà. Il n'est pas certain, d'ailleurs, que la grille qui vient d'être ouverte était présente au départ. Elle a certainement été ajoutée après, pour éviter peut-être d'autres départs.
Peut-être
involontaires.
Voilà. Alors, Marie-Madeleine, vous refermez cette grille et... alors, je suis un petit peu curieuse, Christian et Marie-Madeleine... Parce que je vous ai vu tout à l'heure, avant de commencer l'émission, vous fondre dans l'église, mais à travers cette petite porte que vous avez ouverte. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte qui se trouve au fond de l'église?
La charpente qui tient les cloches, j'espère qu'elle va tenir encore un bon moment.
D'accord.
Donc, nous y sommes montés il y a un petit moment avec Marie-Madeleine et on a pu découvrir justement la charpente de la toiture elle-même qui elle paraît en bon état. Et il y a une charpente annexe qui se trouve en dessous qui est destinée à supporter le poids des cloches.
Ah oui,
les cloches,
ça pèse.
Oui.
Ah oulala.
Mais
oui.
on a vu que les cordes n'existent plus alors que là où on est dans le fond de l'église, on voit les trous.
Ah oui.
Dans le plafond, donc dans la première travée, ouest là, où passaient les cordes, que j'ai connues, moi, il y a un bon moment. Donc, les trous n'existent plus, mais existent encore.
Oui, mais les cordes,
il
n'y
a plus les cordes.
Oui, d'accord. Et on voit bien qu'il y a deux trous, donc deux cordes.
Voilà.
Deux trous, deux cordes
et deux cloches.
Voilà, tout va par pair. Et voilà cet escalier, effectivement, un escalier à vis dont on peut parler, Marie-Madeleine,
oui,
tout en pierre.
Escalier à vis, oui,
voilà.
Qui est assez étroit. Les marches sont étroites, mais on peut très bien monter, elles sont en bon état.
Très bien. Et mais écoutez, c'est très bien que vous y soyez allés, parce que apparemment, ça a l'air quand même très très difficile. Hein,
oui, oui. Il faut redescendre, mais on en redescend.
Voilà, tout à fait. Alors, concernant l'église, Christian et Gilles, nous allons parler d'un livre que vous aviez donc fait il y a quelques années, et qui a été fait par Christian, édité par Gilles, et tous les deux de pair ont réalisé cet ouvrage. Est-ce que vous pourriez nous en parler justement de cet ouvrage, parce qu'on en a beaucoup parlé pendant ces trois émissions et bien évidemment les auditeurs veulent savoir, je suis sûre qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce livre.
Alors, comme l'avait dit Christian dans la première émission, effectivement, le livre est là pour exprimer, bien sûr, le bâtiment tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est-à-dire les dimensions, sa composition, les différentes parties essentielles du bâtiment, mais aussi les décors. Comme je l'avais aussi indiqué dans une émission, effectivement, grâce au concours des élèves et de la classe
de
Saint-Étienne, et la collaboration de la municipalité pour les échafaudages intérieurs, nous avions pu faire les photographies de chaque objet, et notamment les vitraux, qui sont toujours difficiles d'accès, puisqu'on les regarde
de
bas jusqu'en haut, et forcément, lorsqu'on veut faire une photo, le résultat est toujours décevant, alors que là, on a pu les faire, et ce qui permettra, effectivement, puisque si effectivement vous faites référence à l'ouvrage, peut-être le lien du site internet sur lequel l'ouvrage est visible, on pourra y mettre aussi quelques décors de façon à ce que les gens puissent voir, les internautes puissent voir les éléments qui composent cet ouvrage. Alors l'ouvrage existe encore, il est encore disponible, il a été fait en 2009. C'était parmi mes premières livraisons en tant qu'éditeur. Et d'autres ouvrages d'ailleurs à caractère aux connotations religieuses ont suivi. Ça avait été aussi expliqué en son temps dans vos émissions de radio que j'étais venu aussi présenter. Cet ouvrage est disponible chez les libraires, bien sûr, par exemple à Cahors, la librairie Calligramme, qui est un de mes diffuseurs. On la trouve pas partout dans le Lot, mais on peut aussi l'acquérir site internet.
D'accord. Quel est le titre de cet ouvrage ?
Alors l'ouvrage s'appelle Arcambal, l'église, patrimoine architectural.
Donc aux éditions Edicos.
Edicos, voilà. Sûr. Et donc sur le site internet www.edicos.fr.
Tout à fait.
Et on écrit Arcambal et on arrive sur la page du livre.
Et Christian et Gilles, qu'est-ce qui a été le détonateur pour la mise en valeur de cette église, notamment au travers de ce livre ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit un jour, on va écrire quelque chose sur Arcambal, ou l'église ?
Oui, moi j'habite à 500 mètres d'ici depuis une quarantaine d'années. Donc je venais de temps en temps à la messe, donc je fréquente cette église depuis longtemps. Maintenant, je la fréquente beaucoup moins parce que bon, je suis plus chrétien. Mais la deuxième raison, c'est parce que il y a plus très très souvent de messes dans cette église-là.
Oui, tout à fait. Donc, une fois par mois, comme nous disait Thérèse dans la deuxième émission.
Mais comme je suis venu quand même assez longtemps, et les détails que j'avais donnés dans une autre émission, je les ai remarqués pendant les longs moments, au moins une heure par semaine, où on est assis sur les chaises, et je regardais ces pierres dans le fond sur le chevet, là, et je me suis posé plein de questions.
D'accord.
Et du coup, j'ai cherché les réponses, et un jour, je me suis dit, bon, je suis dessinateur, j'ai envie de faire le dessin de cette église. Donc, avec Gilles, on s'est décidé, je lui ai demandé, t'es d'accord pour qu'on fasse équipe. Donc, on a, comme je l'avais expliqué, on a pris les dimensions de l'église, on a fait un plan.
Oui, c'est ça qui est dans ce livre,
d'ailleurs. On a partagé l'iconographie entre la photographie faite par des futurs professionnels de la photographie en communication et des dessins d'illustration qui peut-être donnent une autre tonalité, si vous voulez. D'abord, les plans, les élévations, etc., c'est un travail d'architecte, donc c'est un travail que je connais bien, qu'on peut pas remplacer par des photos. Et ensuite, plein de petits détails où on a la réalité des tableaux, des vitraux, des sculptures, du dallage, des écussons, etc., et de l'architecture. Si on se retourne en ce moment, regardez, vous vous retournez, on est juste à l'entrée principale de l'église, et on voit la solidité des voûtes. Regardez les arcs doubleaux qui sont très, très épais et très solides. Cette église-là, elle est très harmonieuse. Elle nous séduit, en fait. Et je pense que tous les enduits, les plâtres qui étaient avant sur ces pierres cachaient un petit peu cette origine de l'église. Évidemment, toutes les églises, disons, à partir du XVIe, XVIIe siècle, ont été enduites et peintes. Il fallait décorer absolument les églises. Et même les sculptures étaient peintes. Voilà. Mais c'est pas mal non plus, avec, disons, la mode du XXe siècle, de retrouver un petit peu l'origine de la construction. Et je pense que c'est assez agréable. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord, si les camarades qui se trouvent autour de moi trouvent que cette église,
ah, elle finalement... Elle est très belle. Elle est vraiment elle est très agréable. Et... Voilà, elle est très, très agréable, très flatteuse, sombre, comme vous dites, et très, très, très lumineuse. Enfin, on n'entre pas dans quelque chose qui est noir, non, on entre quelque chose de lumineux, voilà, dans un endroit lumineux. Et voilà, on a envie, je le dis moi-même, on a envie de sourire à cette et d'écarquiller les yeux parce que c'est vraiment très très beau. Il y a également un autre petit document qui s'intitule Arcambal, l'église Saint-Antoine, où je lis quelque chose de très important. Le Lot est riche. Notre département compte en effet 900 églises, ce qui n'est pas rien. Marie-Madeleine, nous n'avons pas terminé de visiter les églises. Certaines, comme l'église Saint-Antoine, qui ont traversé les siècles, font partie des 400 édifices protégés par la loi sur les monuments historiques. Alors, ce petit document, Gilles, oui. Vous pouvez nous en dire
alors,
deux mots?
Alors, il a été réalisé par l'association Hameaux et Villages d'Arcambal, qui est une association qui consacre ses actions au patrimoine. Et nous avons cru utile de réaliser ce document pour le mettre à disposition des visiteurs. Non seulement il donne une synthèse sur la description que nous venons de faire au travers de ces émissions, mais il donne aussi des indications pratiques, c'est-à-dire l'Église appartient, on le sait, d'une manière administrative, l'Église appartient à la commune, puisque c'est elle qui en a la charge. Après, l'église n'est pas gérée par la commune, mais gérée par le curé qui est affectataire. Donc on signale effectivement ces éléments qui méritent d'être précisés, parce que tout le monde ne le sait pas.
Absolument.
Donc ça permet aux personnes qui viennent ici, s'ils ont envie d'avoir une information propre à une célébration, ils s'adressent directement à la déléguée de la paroisse, et Thérèse nous avait signalé dans la première édition que c'était elle qui en avait la charge, donc on peut la joindre directement puisqu'il y a son numéro de téléphone.
D'accord.
On peut joindre la paroisse sur son numéro de téléphone, sur son mail, sur son site internet. On signale bien sûr aussi qu'il existe un dispositif national où n'importe qui, de n'importe quel endroit, les horaires d'une célébration dans n'importe quelle église de France. Nous avons un dispositif national au travers de l'Église catholique, c'est important aussi de le signaler, qui s'appelle Église Info. Et puis bien sûr, on donne des informations sur le livre dont il a été fait question pendant ces différentes émissions.
Très bien, voilà. Écoutez, merci pour ces précisions. N'hésitez pas, lorsque vous venez visiter éventuellement l'église d'Arcambal, de prendre ce document très précieux et surtout d'aller voir aussi cet autre document qui s'intitule « Arcambal, l'église au pluriel, patrimoine architectural ». Alors, Christian, nous allons sortir pour voir un petit peu l'extérieur de l'église, oui. Et nous allons en terminer par là. Je pense que ça va intéresser nos auditeurs. Voilà, le temps de franchir deux, trois marches, pour pouvoir nous rendre dehors, où c'est absolument superbe. Alors, Christian, nous nous rendons donc devant la porte principale de l'église, je suppose.
Oui, qui se situe, bien sûr, de l'autre côté du chevet, qui, lui, est dirigé vers Jérusalem. Donc là, nous sommes du côté ouest, là, l'entrée principale de l'église.
Oui.
Alors, c'est une curiosité également, puisque j'avais signalé que l'église pouvait se dater assez facilement de la fin du XVe siècle, donc là, vraiment la fin du Moyen-Âge, le début de la Renaissance. Et on trouve sur cette porte, alors quelque chose, un porche qui semble être, lui, de facture classique.
Oui.
On trouve avec le fronton triangulaire, donc qui est la marque un petit peu du retour à l'Antiquité, qui est la marque de la Renaissance par rapport au Moyen-Âge. Donc on a ce porche qui semble être plaqué, mais il est tellement bien intégré qu'on a presque l'impression que c'est qu'il fait partie vraiment de l'église.
Tout à fait.
Peut-être qu'il en fait partie. Mmh. On ne construit pas une église comme ça en 6 mois. Hein. Alors, il est possible qu'à la fin de la construction de l'église, l'esprit de la Renaissance existait déjà et qu'on ait dit, tiens, on va faire un fronton triangulaire, on va faire une entrée qui est la marque de la Renaissance avec des chapiteaux qui sont un petit peu des chapiteaux ioniques, mais pas tout à fait, vous voyez, c'est des chapiteaux un peu composites avec des pilastres plats, etc. Donc on a l'impression d'avoir une porte Renaissance sur un bâtiment qui est très massif, qui est simple et qui fait plutôt penser aux églises du Moyen-Âge.
D'accord. Et juste à côté de cette porte, il y a cette tourelle, mais qui, c'est bien l'escalier
oui.
dont nous avons parlé tout à l'heure, derrière cette porte mystérieuse, que nous apercevons là tout de suite, avec au-dessus, bien sûr, les cloches, voilà. Mais écoutez, nous allons terminer cette émission Arc-en-Bal, voilà, où nous sommes restés 3 semaines pour notre plus grand plaisir. Donc, merci Christian de nous avoir guidés de très belles manières. Merci Marie-Madeleine, comme d'habitude,
hein,
de nous porter toutes ces précisions importantes. Merci Thérèse de nous avoir indiqué un petit peu les différents éléments composants, notamment les messes, au niveau de différentes choses. Merci Gilles de nous avoir piloté à travers les éditions Edicos, donc je répète, concernant Arc-en-Bal, l'église, et concernant aussi ce petit document sur l'église. Et un grand merci à tous. Merci chers auditeurs. Et la semaine prochaine, la route nous amènera vers d'autres belles aventures et d'autres très belles églises du Lot. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Et donc à la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir à tous.
Au revoir.
Au revoir.